Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour cette grande preview du Tour des Flandres 2024. On est hyper excités de vous présenter cette course qui s'annonce comme chaque année extraordinaire. On est en pleine semaine sainte, voilà la fameuse semaine sainte en Belgique où on a un enchaînement de courses pavées avec en point d'orgue le Tour des Flandres qui va arriver ce dimanche 31 mars. Pour m'accompagner ce soir pour vous présenter cette course, vous le connaissez grâce à ses analyses qui sont aussi tranchantes que les accélérations de son idole en maillot arc-en-ciel, et jamais il n'arrêtera de s'extasier sur les performances du champion qu'il veut voir remporter un troisième round 2 et égaler le record de victoire. Salut Titien, comment vas-tu?
Salut les copains, salut à tous. Écoute, ça va super bien, super excité. Ça y est, on est en plein dans la semaine sainte. On a déjà vécu des super classiques. Donc vous avez fait un super débrief il y a quelques jours. Et puis là, le Tour des Flandres, le Ronde, la Mecque du cyclisme. Pour moi, c'est le plus grand des cinq monuments. Alors, on n'est peut-être pas tous d'accord là-dessus, mais en tout cas, voilà, mon cœur balance toujours un peu avec Paris-Roubaix, mais c'est vraiment pour moi le plus grand de tous. Donc, je suis trop content qu'on soit au Ronde. Et effectivement, je pense qu'on va beaucoup parler de Mathieu Van Der Poel dans cette preview, qui est mon coureur favori et qui est un des grands favoris pour remporter cette course. Donc, je suis super content.
Effectivement, il devrait nous occuper quelques minutes et je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est également le plus grand monument, le monument des monuments. Voilà. Pour nous accompagner ce soir, Titien, on compte sur lui pour prononcer le nom de tous les monts flamands correctement, tellement l'accent du reste de l'équipe de Radio Fringale laisse à désirer. Et on prend également toutes les explications possibles pour comprendre encore mieux le phénomène qu'est cette course en Belgique. Salut Loïc, comment vas-tu?
Salut, ça va super. On voit toutes les courses qui commencent à s'enchaîner là. On commence à prendre le rythme de la saison. On dirait une saison qui se lance et qui va être ultra chargée. Et je pense qu'on va avoir plein de courses et on va avoir plein de plaisir sur les courses aussi. Donc, je suis super content d'être là. Et moi, mon petit favori aussi, c'est notre Mathieu National.
Ah oui, ça y est, là, ça lâche déjà ses favoris dans l'intro. En fait, le favori est tellement énorme qu'on est obligé déjà de le lâcher dans l'intro après.
Avec son beau maillot.
C'est le fan club, là.
Il y a quand même pas beaucoup de suspense. Voilà, voilà. Avant de commencer cette émission, un petit rappel pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas encore abonnées. N'hésitez pas à le faire, mettre un like aussi sur la vidéo. C'est bon pour notre référencement et ça nous soutient dans ce qu'on fait. Vous pouvez également toujours adhérer à l'association, même s'il n'y a plus le magnifique t-shirt Van Der Dog. C'est possible de nous soutenir en devenant membre de l'association Radio Fringale. Tous les liens sont dans la description et puis allez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, notamment pour les super articles produits par Matt et Simon toutes les semaines, mais il y en a même beaucoup plus que un par semaine. Ils ont une fréquence de publication assez impressionnante et toujours avec des sujets hyper sympas. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à aller voir ce qu'ils écrivent. C'est un régal de les lire. Bon messieurs, encore avant vraiment de parler de Van Der Poel, vous allez vous retenir un petit peu. Je vous ai organisé un petit quiz. Voilà, petit quiz. Alors bon, trois questions hein, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez révisé? Est-ce que vous connaissez le palmarès sur le bout des doigts?
Oula, mais tu sais que j'ai un niveau en quiz qui est extrêmement élevé.
Bon, réviser non, mais on va y aller quoi.
Ouais, faut y aller. J'ai envie de dire que c'est abordable. C'est abordable.
Attends, première question. J'ouvre Pro Cycling Stat.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on les connaît, les malins. Première question. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les deux dernières années, il n'y a pas eu de Belge sur le podium. Donc, deux années consécutives où il n'y a pas de Belge sur le podium du Tour des Flandres. Quand est-ce que c'était arrivé pour la dernière fois avant 2022 et 2023.
2021, Greg Van Avermaet, troisième, non?
Ouais. Mais du coup, ma question, c'est quand la dernière fois qu'il n'y a pas eu de Belge sur le podium pendant deux années de suite?
Ah, pardon. J'avais pas compris, j'étais trop content.
C'est un peu
C'est un peu la trop classique content d'avoir le dernier belge sur le podium, en fait, c'est ça.
Avec quoi il y avait Bonnen, il y avait toujours un belge.
De toute façon, ils ont gagné tout le temps, presque tout le temps. Je crois que c'est. Il y a combien de vainqueurs belges en pourcentage?
C'est assez impressionnant, ouais.
Alors, en tout cas, au 21e siècle, j'ai pas souvenir que deux années de suite sans belge. En plus, il y a deux Volder qui a gagné deux fois. Avant, c'était Bonnen. Puis même quand il y avait Cancellara, il y avait quand même Bonnen. Puis après, il y avait Van Avermaet. J'ai pas souvenir, honnêtement. Je sais qu'il n'y a pas eu en 2001, c'était Bortolami devant Dekker et Zanetti. Est-ce qu'en 2000,
non, mais en 2000, est-ce que c'est récent ou c'est pas?
En 2000, il y avait Schmil.
Il y a peut-être un piège.
Je sais pas. Il n'y a pas une année. Ah, je sais pas.
Indice, il y a peut-être un piège.
Oh là là, c'est dur.
C'est récent, hein, alors.
Non. En fait, bon, la question est un peu tordue. C'était jamais arrivé.
Ah, d'accord, ok. Bah...
Ah, d'accord. Ok.
Voilà, il n'y a jamais eu deux éditions de suite sans Belge.
Non. Avant 2022 et 2023, il y a eu quelques éditions, parfois, sans Belge, sur le podium, mais c'était la première fois qu'il y avait deux années de suite, pas de Belge sur le podium. Voilà.
Donc, qui va avoir la pression là.
Voilà, c'est pour poser un petit peu le cadre. La Belgique attend, messieurs, les Belges, les coureurs belges. Ok, bah toujours 0-0. Deuxième question. Si Mathieu Van Der Poel s'impose dimanche sur le Tour des Flandres, il égalera le record de victoires avec 3 victoires sur ce monument. En gagnant dimanche, il y aurait eu au moins un an entre chacune de ses victoires. C'est-à-dire qu'il remporterait ses 3 victoires sans l'avoir fait 2 fois consécutivement. Vous me suivez jusque-là ?
Oui.
Ouais. Qui est le seul coureur à avoir remporté 3 fois le Tour des Flandres dans sa carrière sans l'avoir gagné 2 ans de suite ?
Bah, 3 fois sans l'avoir gagné 2 ans de suite.
Ouais.
Johan Museum.
Ouais, joli. Oh, ben Johan Museum. Ah ouais, en 93, 95 et 98.
J'avais révisé.
Les autres triples vainqueurs, Boonen, il a enchaîné 2 années de suite, Cancellara aussi, Merckx également, enfin voilà, tous les triples vainqueurs avaient remporté cette course 2 années de suite sauf Museum. Voilà. Et ben 1-0 pour Loïc. Alors troisième question pour vous départager. Non, c'est pas si simple. Les questions sont pas si directes, mais bon.
Elles sont toutes tendues.
Tu sais, des fois, on a de la chance de pas être contre Adrio Quiz, et là, il nous sort des trucs de ma boule. Aïe, aïe, aïe.
Peut-être une question de rapidité, et puis on verra si vous êtes ex-aequo, on trouvera une autre petite question pour vous départager. Citez-moi le nom d'un coureur qui a remporté le round 2 avec le maillot arc-en-ciel sur le dos.
Sagan.
Ouais, Sagan. Joli. Victoire de Loïc dans le quiz. Après, 2-0, ouais. Magnifique. Sagan, donc oui. Qu'il avait emporté, il y avait également Boonen, Merckx, Van Looy et Louison Bobet qui ont gagné tous les 5 le round 2 avec le maillot arc-en-ciel. Et ben voilà, Loïc, serait-ce ta première victoire sur le quiz?
Alors, oui, c'est la première victoire, j'ai levé les bras là tout seul chez moi.
c'est magnifique, c'est la même célébration que le futur vainqueur de dimanche, peut-être. À voir. On va pouvoir rentrer dans le dur de l'émission, dans la preview de ce Tour des Flandres 2024. Avant, un petit un petit rappel pour les personnes qui vont nous écouter en fin de semaine. On enregistre là avant à travers les Flandres. Donc si jamais il y a eu un séisme, une performance de ouf, une chute sur à travers les Flandres, on le sait pas encore au moment où vous parle de la course. Donc à bien prendre en compte quand vous nous écoutez. La présentation d'un monument, ça commence bien évidemment toujours par la présentation du parcours qui depuis 2012 a très peu changé, mais voilà, il y a parfois des monts qui arrivent et qui ressortent. Et pour le topo sur le parcours 2024, je te laisse la parole, Titien, pour nous expliquer un petit peu tout ça.
Ouais, c'est pour ça que le Ronde, pour moi, c'est vraiment le king des monuments, en fait. C'est que le parcours est ultra difficile. On a donc on part d'Anvers pour arriver à Audenarde. On a 271 km et 2200 mètres de dénivelé positif. Alors, c'est pas totalement le dénivelé positif de la course qui fait sa difficulté, mais c'est qu'après une, on va dire 130 km relativement plat, souvent ça laisse le temps à l'échappée de se former, c'est assez tranquille dans le peloton, etc. Les choses sérieuses commencent, et à partir de la première ascension des trois du vieux Coiremont, qui sera environ, un peu plus de 130 km de l'arrivée, c'est là que les choses sérieuses vont commencer, puisqu'à partir de cette première montée du Coiremont, on va sans cesse enchaîner des monts pavés, tous ces monts que vous avez pu voir dans l'E3, dans quelques-uns peut-être de Gambevelgem, et que vous allez voir dans Travers la Flandre, ils sont tous là autour des Flandres. Donc on va enchaîner, pendant 130 km des monts pavés, et puis ça va pas s'arrêter. Souvent la course, on va dire, se lance vraiment dans le triple enchaînement à une cinquantaine de kilomètres, de 45 à 38 kilomètres de l'arrivée. On va enchaîner la deuxième ascension du Mont Coiremont, suivie tout de suite de celle du Paterberg, et puis enfin celle du Koppenberg. Vous voyez bien ce Koppenberg, cette montée tout en ligne droite. On se souvient des images un peu historiques de coureurs à pied dans le Koppenberg, tellement ça passait pas. Donc ce triple enchaînement, souvent il lance la course des Cadors définitivement. On se souvient de l'attaque de l'année dernière de Pogacar dans le vieux Coiremont. Ensuite ça a pas débranché, c'est ce qui risque de se passer cette année. Et puis ensuite on enchaîne avec le Taillenberg, le Mont Auton, et puis de nouveau ce dernier enchaînement à 20 km de l'arrivée du vieux Coiremont et du Paterberg, pour une quinzaine de kilomètres tout plat pour rejoindre Audenarde. Donc il va falloir s'économiser, on va dire, sur la première partie de course, parce que à partir du milieu de l'épreuve, ça va pas arrêter de s'enchaîner. Ça fait maintenant 12 ans exactement qu'il y a ce parcours du Tour des Flandres, qui a été donc pas mal durci par rapport à celui qui existait avant avec le mur de Gramont en juge de paix, on va dire. Et donc là, on a un parcours très très exigeant, qui va bien évidemment favoriser des coureurs endurants, des coureurs résistants qui savent changer de rythme. Et surtout, comme vous le savez, le placement à partir du milieu de l'épreuve va être hyper important, puisque si on n'est pas dans les premières positions au pied des monts, derrière, forcément, ça bloque. Et donc ça va être une guerre de placement très très nerveux, et c'est ce qui fait la difficulté de cette épreuve. Et ce sera forcément sûrement même le meilleur coureur de la course qui triomphera au bout des 271 km. Voilà pour la présentation du parcours de l'épreuve.
Merci beaucoup pour cette présentation très complète, comme d'habitude. Loïc, est-ce que tu as un truc à ajouter sur le parcours ou une remarque en particulier?
C'est 271 bornes de bourrinage. Il va falloir faire gaffe sur les 100 premiers kilomètres, où on a vu quand même des chutes arriver, notamment l'année dernière. Faut pas que les favoris se trouvent dans une chute à ce moment-là. Et après, c'est quand même une des plus belles courses de l'année. On va voir des gens bourriner sur des pavés, et moi, j'adore voir ça.
C'est la base du cyclisme en Belgique, en fait, ça, bourriner sur les pavés. C'est ça, c'est le monument, c'est le Tour des Flandres.
Bon, moi perso, en rentrant du travail tout à l'heure, j'ai pris, 40 mètres de zone pavée, et je me suis dit, mais comment ils font, purée, en plus ça monte, comment ils font, ça fait trop mal. Donc non, vraiment, c'est une course hyper exigeante, pavé plus mont, ça va être dur pour les coureurs.
Ouais, ça va être
Mais nous, ça va être un régal.
On va se régaler en regardant ça. Tu l'as dit dans ta présentation du parcours, il y a de grandes chances que ce soit l'homme le plus fort qui s'impose. Et clairement, il y a un coureur qui arrive en ultra favori sur cette édition 2024. C'est Mathieu Van Der Poel, hein, qui a quand même été hyper impressionnant sur ces quelques courses, parce qu'il n'a pas beaucoup pas beaucoup couru, pardon, depuis le début de la saison. Juste avant de vous donner la parole, messieurs, pour que vous puissiez parler librement de Mathieu Van Der Poel, on va limiter à une heure chacun, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres, c'est quand même une première participation en 2019, où il fait quatrième, mais où je pense que tout le monde se souvient de cette crevaison
incroyable,
la roue avant, il lève le bras, il chute, et puis il est hyper loin, c'est au moment où la course se lance, et puis il revient, il nous fait un peu comme à l'Amstel qui gagne quelques semaines plus tard, il roule comme un bœuf sur les 40 derniers kilomètres, et puis il arrive à terminer quatrième au bout d'une course monstrueuse. L'année d'après, en 2020, il s'impose, c'est le sprint hyper serré avec Wout Van Aert et ce final à deux magnifique. En 2021, il termine deuxième, battu au sprint cette fois-ci par Casper Asgreen. 2022, il s'impose dans un final de surplace d'anthologie avec Pogacar. Et l'année dernière, deuxième, battu cette fois pas au sprint, mais par un Tadej Pogacar intouchable dans le final du Tour des Flandres. Clairement, c'est une course qu'il maîtrise, il la connaît maintenant parfaitement et au niveau stats, c'est assez incroyable. Alors du coup, allez-y, faites-moi rêver et puis expliquez-moi pourquoi est-ce que Mathieu Van Der Poel va gagner dimanche.
J'y vais, Loïc, où tu vas ?
Vas-y, Titien, fais-toi plaisir.
Non, mais tout simplement, en fait, Mathieu Van Der Poel, c'est sa course, le Tour des Flandres, il est taillé pour cette course, il a une explosivité et une endurance, à mon avis, sans égal dans le peloton, il n'y a qu'à voir sa victoire au Mondiaux l'année dernière, dans une course qui finalement, à part qu'il n'y avait pas de pavé, ressemblait beaucoup au Tour des Flandres, avec cet enchaînement de petites bosses, là, de 500, 600 mètres, c'est clairement des... En fait, c'est des circuits où Mathieu Van Der Poel, il a une motricité folle, il a cette faculté de toujours savoir se placer dans le peloton, et puis effectivement, il fait tellement mal aux autres quand il est explosif. Et en plus, depuis la saison dernière, en plus de cette explosivité, il a cette capacité, en fait, à enchaîner les attaques, à là où, en fait, ses adversaires sont aussi très forts et vont savoir le suivre pendant 3-4 attaques, Mathieu Van Der Poel, il pourra en mettre une cinquième, et cette fois-ci, ce sera trop pour ses adversaires. Donc, en fait, cette course, on l'a bien vu, on en parlera après. Mathieu Van Der Poel, il a pas tout gagné puisqu'il vient de, par exemple, de finir deuxième de Grand Wevelgem. C'était pas le même type de course. Le 3, ça se rapproche beaucoup plus d'un Tour des Flandres avec une concentration, un enchaînement de monts au milieu de la course là qui est assez incroyable. C'est ce qu'on va retrouver sur le Ronde et on a bien vu que Mathieu Van Der Poel a ce petit jeu-là, voilà. Attaque après attaque, il a fait craquer tous ses adversaires. C'est également ensuite, en fait, des séquences où de cet enchaînement de monts, il va être assez difficile de le piéger parce qu'en fait, les coureurs sont toujours en prise. Donc, finalement, un coureur qui va se porter à l'avant, il va être obligé de faire un très très gros effort et qui pourrait payer ensuite. Donc, en toute logique, par rapport à la fois à son historique sur la course, comme tu l'as rappelé, par rapport à sa forme du moment et par rapport au parcours qui lui va comme un gant et par rapport à ses qualités, pour moi, par rapport à ces trois arguments-là, voilà, c'est le champion du monde, il est en forme, il est forcément le grand favori de la course. Et puis, quatrième chose, le seul gars qui l'a battu l'année dernière, c'est Tadej Pogacar. Il faut pas oublier que Van Der Poel, l'année dernière, il a simplement été battu par un énorme Tadej Pogacar. Il finit une quinzaine de secondes, mais c'est simplement, voilà, il est tombé sur le meilleur coureur du monde qui avait fait du Tour des Flandres un grand objectif. Mais lui aussi, Van Der Poel, il avait remonté 3 minutes sur un groupe d'ultra costaud l'année dernière et ça l'avait pas empêché de lâcher ce groupe et de mettre une minute à ce groupe. Donc, s'il est en tout cas sur la même forme que l'an dernier, et ça a l'air bien parti, je le vois inarrêtable sur cette course. Je sais pas ce que t'en penses, Loïc.
Moi je pense qu'il va être dans la continuité de cette dernière année, on va dire. Il est ultra explosif comme tu l'as dit. Globalement je suis tout à fait d'accord avec toi. Après je pense qu'il vaut pas non plus, enfin faut pas plier le Tour des Flandres tout de suite, hein, parce qu'il y a quand même du monde derrière. Il y a Pedersen qui le bat il y a quelques jours, mais pour moi c'est en effet l'archi favori. Il est sur, entre guillemets, sur ses terres. Les pavés vont se plier en dessous ses roues, quoi. C'est pas lui qui va plier en dessous les pavés. Non, il est super fort et c'est l'ultra favori. C'est vrai.
Ouais, puis alors moi je trouve que Mathieu Van Der Poel, surtout sur le 3, j'ai l'impression qu'il est encore meilleur, ou alors c'est ses adversaires qui sont un peu moins bons qu'avant, mais Mais sur le 3 l'année dernière, il n'avait pas forcé, il n'avait pas sorti Pogacar et Van Aert, il était juste derrière. Et alors là, ça ne s'est pas joué à grand chose aussi sur le 3 avec Van Aert qui est revenu tout près. Mais je sais pas, il dégage encore. C'est déjà un coureur avant son titre de champion du monde qui dégageait de l'assurance. Et là, je trouve qu'il en impose encore plus. Il sait vraiment ce qu'il fait. Il s'affole pas forcément. Tu vois qu'il a sa stratégie en tête et puis qu'il y tient. Et ça, pour moi, c'est une grande, grande force, surtout sur un Tour des Flandres. C'est, la capacité qu'il a à prendre des décisions rapidement, à suivre aussi ses plans, à suivre ses intuitions qui souvent sont bonnes en course. Et ça, clairement, si sur le Tour des Flandres, t'es le favori, tu commences à sauter sur tout ce qui bouge n'importe comment à 120 bandes de l'arrivée, ça va être compliqué parce que tu risques de te cramer. Et à voir comment son équipe va se comporter, mais moi, je serais quand même pas surpris que la course qui durcisse vraiment beaucoup, beaucoup la course, parce qu'il sait que quand la course est dure, et c'est lui le meilleur. Hein, on l'a vu au championnat du monde où la course était hyper dure. Le Tour des Flandres, je pense que c'est la course la plus dure de la saison. C'est lui qui est tout le temps devant. Donc, il a intérêt à ce que ça parte de loin et en créant l'offensive aussi le plus tôt possible, il se met à l'abri d'éventuelles surprises et il minimise les chances de ses adversaires de la jouer un peu plus collectif et d'user de tactique. On en reparlera un petit peu après quand on présentera ses principaux adversaires. Mais pour moi, c'est quelque chose que Van Der Poel, il en a parfaitement conscience. Il a aussi les capacités physiques pour le faire, mais je pense qu'il sera attaqué. Et clairement, il va pas attendre le dernier passage au vieux Quarmont pour faire la différence, parce qu'il a besoin que ça soit très très dur.
Ouais.
Il a gagné en maturité.
Ouais,
clairement, je pense qu'il a gagné en maturité et en plus, il est tout à fait capable de faire 50 bornes en solo en mode contre la montre. Parce qu'il est super fort, donc si, oui, c'est vrai.
Et au-delà de ça, en fait, si on prend simplement ce qui s'est passé cette semaine, alors moi, sur Grand Wevelgem, il n'a pas gagné, je trouvais quand même qu'il était très fort, parce que Pedersen, il est quand même resté près de 15-20 km dans la route Van Der Poel, et qui s'est fait attaquer à tour de rôle par les Trek, et quand Milan est parti, voilà, c'est Van Der Poel qui a dû faire tout le travail. Quand Wevelgem, il n'y a pas ce même enchaînement de monts, etc., donc ça ne l'a pas favorisé, et pourtant, il était encore là dans le final. Et puis surtout, le Grand Prix E3, le E3, c'est quand même une heure de course de moins que le Tour des Flandres. On sait que Van Der Poel, les courses longues, ça lui fait pas peur, hein, vu toutes les courses qu'il a gagnées. Et quand je vois comment il arrive, il est en parade dans le dernier kilomètre sur l'E3, alors que ses poursuivants qui arrivent derrière à plus d'une minute trente, ils arrivent, mais les mecs, ils sont, enfin, Wout van Aert, il en peut plus, il est à bout de souffle, enfin, même les meilleurs, Stuyven, enfin, tu sens qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes, en fait, derrière. Et lui, tu sens, en fait, que, enfin, le dernier kilomètre, il s'est clairement relevé, il faisait des coucous à la caméra, enfin, il y avait quand même un autre monde, en fait, hein, que ses coureurs. Et si je me dis qu'en fait, déjà, il y a cette différence qu'il peut faire sur une course de 200 kilomètres, moi, je trouve que justement, plus il y a de kilomètres, plus ça va avantager Mathieu Van Der Poel. Bah, j'ai un peu peur pour les adversaires, parce que si t'arrives épuisé déjà sur une course comme, enfin, sur l'E3, alors qui est très très difficile, parce que c'est une sorte de mini Tour des Flandres, mais c'est quand même pas le Tour des Flandres, si l'E3 avait duré 40 km de plus, il leur mettait peut-être 3 minutes, 4 minutes, hein, je sais pas, mais donc, en tout cas, la forme du moment vient en plus, et puis, enfin, sa saison de cyclocross, on sent que, en fait, quand il est vraiment en forme, il est intouchable, donc, s'il est à son top niveau dimanche prochain, ce qui risque quand même d'être le cas, en tout cas physiquement, c'est le grand favori et il semble assez intouchable en ce moment. Il va falloir mettre en place des sacrées stratégies, ou alors il va falloir que un ou plusieurs de ses adversaires arrivent à élever assez largement leur niveau.
Bah, il a l'air surtout de super bien viser ses pics de forme. Enfin, on l'a vu l'année dernière, il gère sa saison. Enfin, il court énormément. Mais quand il a un objectif en tête, souvent il marque, il fait un top résultat. Il balance sa saison de façon super intelligente, je trouve.
Ouais, c'est devenu aussi ça une de ses forces, alors que lui, au début de sa carrière, il était un petit peu en mode tout le temps à bloc, et on voit, et c'est aussi, on en a déjà parlé longuement, pour ça qu'il réussit sa saison 2023 magnifiquement, parce que sur Tirreno, il fait le boulot, il fait des efforts, il est pas au top, derrière il claque Milan-San Remo, il fait une superbe campagne de classique, deuxième du Ronde, il gagne Paris-Roubaix. Et puis Rebelote sur le Tour de France, il est un peu inexistant, il fait des échappées, on le voit pas trop, et puis paf, derrière, il est champion du monde, donc clairement, il sait ce qu'il fait, et il arrive à une maturité, il vient d'avoir 29 ans, il est au top de sa forme encore, et c'est voilà dans la force de l'âge, comme on dit. Donc l'ultra favori Van der Poel. Mais c'est pas parce qu'il est ultra favori qu'il va forcément s'imposer, et c'est là toute la beauté du cyclisme. J'aimerais dans une deuxième partie de cette émission, messieurs, qu'on fasse un petit focus sur deux équipes qui on pense qu'elles ont en tout cas des cartes en main pour battre Mathieu Van Der Poel, et que de manière collective, il y a sûrement quelque chose de très très intéressant à faire. C'est bien sûr la Visma Lise Bike et la Lidl Trek de formation qu'on ne présente plus, mais que vous allez quand même nous présenter pour mettre un petit peu en avant comment est-ce que ils peuvent battre Mathieu Van Der Poel.
Eh bien, je pense qu'on peut parler de la, enfin, comme tu veux dire, mais on peut parler de la Visma, et parce que pour moi en fait la Visma, alors ça a été une force collective. Enfin, ces dernières années, ça a toujours été une force collective et ça reste une force collective. Mais pour moi, sur ce rond-deux, c'est le grand point d'interrogation en fait. C'est j'ai aucun coureur où je me dis c'est sûr qu'il va. Enfin, il y en a un ou deux, mais où c'est sûr il va performer. C'est-à-dire que Van Aert, ça dépend aussi de la définition de ce qu'on appelle performer pour Van Aert, mais quand on le voit, sur la semaine dernière, il dit je me suis beaucoup entraîné, c'est pour ça que je suis pas en énorme forme. Il sprint même pas pour la troisième place, pour la deuxième place. Après, on a un Van Baarle qui a été inexistant pour moi. Enfin, je l'ai pas vu. Dans ces dernières semaines, il y a Tragnik qui chute sur la dernière course. Après, il y a Jorgensen qui fait un super début de saison où là, je me dis, il était à la Movistar l'année dernière et je pense que lui, par contre, il a fait un top 10 l'année dernière. Je le vois bien performer. Je pense que ça va être un énorme atout pour Vauti. Mais pour moi, c'est par rapport aux années précédentes, je trouve que c'est beaucoup moins fort. Et après, l'interrogation qu'on a aussi, c'est Christophe Laporte qui a pas couru depuis deux semaines, depuis Milan-San Remo, je crois.
Il s'est parmi, je crois. Et puis, hier, il était dans la start list.
Il est forfait.
Et là, il y est plus.
Il est forfait.
Il est officiellement forfait.
Je voyais. Du coup, il disait qu'il avait eu des problèmes d'estomac et qu'il n'avait pas réussi à s'entraîner depuis une dizaine de jours. Moi, je trouve, enfin, c'est quand même une pièce ultra importante de l'échiquier Visma. Donc, je me dis lui en plus. Et après, je me dis par rapport à l'année dernière, tu vois, il y a pas Van Hooydonk. Et lui, c'était aussi quelqu'un de très très important pour l'équipe. Et je me dis que l'ensemble est quand même vachement fragilisé par rapport à l'autre équipe qu'on va présenter. Je veux pas spoiler. Mais je trouve que ça a été très fragilisé. Mais bon, après, ça se trouve, Wout va nous sortir une super performance et en fait, il nous fait comme Mathieu l'année dernière où il nous vise vraiment les courses à la semaine près et qu'en fait, d'ailleurs, il court pas cette semaine. Peut-être qu'il va nous viser un pic de forme super précis et il va nous faire une masterclass.
Ouais, c'est tout ce qu'il faut espérer. Moi, en tout cas, moi, je te rejoins sur la Visma. C'est clair que c'est l'équipe qu'on attendait comme étant la nouvelle Soudal Quickstep sur les classiques cette année. Alors, ils ont très bien débuté avec la victoire sur le Newsblad de Tratnik et celle de Van Aert sur Kuurne. J'ai l'impression que depuis 2-3 semaines, c'est compliqué pour cette équipe, pas seulement sur... En fait, ils ont remporté Paris-Nice, ils ont remporté Tirreno, et puis depuis, c'est pas facile. Le Catalogne, ça allait pas du tout. Pour l'instant, les classiques, on attendait la Visma pour tout casser. Finalement, et entre ceux qui finissent pas, Tijbenhout, je crois qu'il revient de blessure au début de saison. Il avait, enfin voilà, qui est pas en tout cas à son top niveau. Laporte qui sera pas là. Enfin voilà, il y a quand même plusieurs choses qui font que, enfin, le collectif de la Visma, il est pas hyper impressionnant. Donc ouais, je sais pas. Il va falloir que Wout van Aert soit très fort en tout cas pour pouvoir faire quelque chose, parce que je sais pas s'il pourra autant compter sur son équipe que ça. Il y a bien sûr Matteo Jorgensen qui était très impressionnant, vainqueur de Paris-Nice, et puis qui était, enfin voilà, encore là le 3. Donc il va falloir essayer de jouer également avec Jorgensen et pas seulement la carte Van Aert à mon avis pour que la Visma puisse peser sur la course.
Ouais, c'est vrai qu'il y a sur le papier au début de saison, s'ils avaient aligné cette équipe, on aurait pu se dire ça va être énorme, mais là ils doivent composer avec forfait de Laporte, Van Barle, Tratnik et Benoît qui clairement à mon avis ne seront pas à leur top niveau dimanche. Pour moi, le principal lieutenant de Van Aert, ça sera Jorgensen. On a vu à quel point il l'a accompagné dans les premières classiques. Je crois qu'ils étaient échappés ensemble sur le Newsblad, si je dis pas de bêtises. Et puis, sur le 3, il fait aussi un sacré boulot. Mais je pense que ça sera pas suffisant si juste Jorgensen reste tout le temps avec Van Aert et puis qu'il roule devant lui pour l'emmener tranquillement avant un mont avec, par exemple, Mathieu Van Der Poel dans la roue. Donc, j'espère vraiment, pour l'intérêt de la course, que la Visma va oser lancer Jorgensen à l'avant assez tôt. Dans les premiers, quitte à l'envoyer avec Benoît ou autre, et puis laisser un coureur avec Van Aert pour qu'il puisse avoir quand même des équipiers autour de lui. Mais je pense qu'ils ont tout intérêt à anticiper de cette façon, parce que s'ils anticipent avec un autre coureur que Jorgensen, je pense que ce coureur-là sera pas assez fort pour éventuellement l'emporter si jamais les favoris n'arrivent pas à revenir derrière. Donc, je sais pas ce que vous pensez de cette option, mais pour moi, c'est un peu la seule option offensive d'envergure qu'elle pourrait mettre en place.
Non, c'est vrai. Par exemple, pour revenir sur Jorgensen, lui, dans n'importe quelle autre équipe, il serait leader. Et je pense qu'il a les cannes pour partir, être ultra offensif. Et il n'a pas forcément la même pancarte que Wauti.
Ouais, attention quand même, parce que pour moi, l'équipe, elle sera 100% autour de Wout van Aert. Et contrairement à la Lidl Trek, dont on parlera après, qui aura plusieurs cartes à jouer, j'ai envie de dire. Enfin, j'imagine pas une seule seconde que pour Van Aert, il soit heureux que Jorgensen gagne la course. Enfin, le mec a sacrifié sa saison de cyclocross, a sacrifié Milan-San Remo, enfin voilà, pas mal de courses de début de saison pour cet objectif du Tour des Flandres. Il a une énorme pression, il doit gagner ce Tour des Flandres. Moi, je crois pas une seule seconde que... Autant, tu vois, j'ai aucun souci à ce que, bon, on parlera des trucs après, mais ce qui est un coureur, enfin, qui coureur qui soit pas Pedersen à l'avant et Pedersen qui roule pas. Mais tu vois, t'as Jorgensen qui est 2 minutes devant, Van Der Poel qui dit bon, bah vas-y, moi j'ai déjà gagné 2 fois, je vais pas aller le chercher. Wout van Aert, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Ok, t'as ton équipé qui gagnera, mais pour le coup, il te restera plus que Paris-Roubaix, tu te foires, t'auras fait tous ces sacrifices pour rien. Van Aert, ce qu'il a envie aussi, je suppose, c'est être dans les livres d'histoire. Enfin, dans 20 ans, personne ne retiendra que Jorgensen, c'était l'équipe de Van Aert et tout. Donc, il y a un sacré dilemme là-dessus. C'est, pour moi, je pense quand même que l'équipe sera articulée autour de Van Aert et que tout ce qui sera fait pendant la course sera pour fatiguer les adversaires, mais pour permettre à Van Aert, en tout cas, de s'économiser, de passer au mieux les derniers monts et de pouvoir jouer sa carte. Donc, je pense qu'ils vont être un peu coincés. C'était un peu déjà le cas l'an dernier, finalement. Je trouve qu'ils avaient un peu mal couru parce que ils ont des super cartes offensives, et pourtant Van Aert il cristallise tout, il veut gagner ce monument, et on peut pas non plus prendre le risque de laisser Van Aert tout seul derrière. Et enfin voilà, donc moi je sais pas, je fais pas une hyper grosse confiance au collectif de la Visma, qui contrairement à l'équipe sur les grands tours a tendance quand même vachement à bâcler ces monuments. Donc je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. En tout cas, il faudra que Wout van Aert soit très très fort, parce que c'est quand même lui le leader de l'équipe, et ce sera à lui clairement de finir le travail et de lâcher tout le monde.
Ouais, mais c'est vrai. Mais je pense que c'est prendre un gros risque en faisant ça, parce que ça voudrait dire qu'il mise sur le fait qu'il va lâcher Mathieu Van Der Poel à la pédale. Donc ça c'est clair que c'est un pari qui sera risqué, mais ils auront peut-être aussi pas trop le choix. Bah, l'autre équipe qu'on avait envie de mettre en avant, on a déjà prononcé plusieurs fois son nom, tellement on l'attend, on a hâte de voir ce qu'il nous réserve dimanche et on a apprécié leur début de saison également, c'est la Lidl Trek. Donc Mats Pedersen sera le leader sur le papier, il vient de remporter Gent-Wevelgem, mais il y a un collectif très très complet. Et Baptiste, je vais te laisser la parole pour nous parler plus précisément de cette équipe.
Ouais, bah la Lidl Trek qu'on découvre cette année, finalement, bah on parlait beaucoup de la Visma comme étant un peu l'équipe ogre sur ces Flandriennes, et finalement voilà, on voit course après course qu'il y a un collectif de la Lidl Trek qui est assez impressionnant. On en avait parlé dans nos podcasts de début de saison. L'équipe s'est évidemment énormément renforcée depuis l'apport financier de Lidl. Il y a Jonathan Milan qui a rejoint l'équipe. Voilà, il y a Mats Pedersen qui est là depuis longtemps. Stuyven qui retrouve un super niveau cette année. On a un coureur comme Tim De Klerk qui est arrivé pour protéger les équipiers sur le plat. Et puis on a des mecs qui performent comme Alex Kirsch, comme comment il s'appelle, Tom Skuins là, voilà, le laiton de cette équipe qui a terminé deuxième des Strade Bianche, qui est en très très grande condition depuis le début de saison. Donc voilà, il y a toute cette équipe, enfin il y a un élan finalement depuis le début de saison porté par Mats Pedersen qui est impressionnant depuis le mois de février, qui fait que cette équipe, en tout cas sur ses courses du Nord, elle performe à haut niveau. Donc ouais, je pense que ce sera le collectif en tout cas qui peut poser le plus de problèmes à un Mathieu Van Der Poel sur cette course, parce que bah voilà, ils en ont fait la démonstration sur Gent-Wevelgem. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour faire perdre Mathieu Van Der Poel, c'est-à-dire qu'avec des coureurs ultra costauds, bah voilà, ils ont joué la carte de l'attaque. C'était Milan qui a dû faire des efforts à Van Der Poel, ensuite Pedersen qui compte, qui fait encore faire des efforts à Van Der Poel, Milan qui est reparti, et en plus ils ont pas eu de chance puisque Jasper Stuyven a crevé, a été décramponné, et puis Alex Kirsch également qui est tombé. J'espère qu'il s'est pas fait trop mal, mais voilà, en tout cas, et puis Mats Pedersen qui conclut le travail. Voilà, je pense qu'ils ont beaucoup fatigué Mathieu Van Der Poel et que ça a suffi à un Mats Pedersen en très grande condition pour aller battre le Néerlandais au sprint. Donc en tout cas, ils ont montré sur Gent-Wevelgem ce qu'il fallait faire dimanche, et la manière de Mathieu Van Der Poel, ce sera de le harceler un petit peu et de l'épuiser. La seule différence, c'est que je pense que Gent-Wevelgem, bah voilà, c'est une course où on a vu quand même des Jordi Meus faire troisième, des Dylan Groenewegen être dans le top 10, donc c'est quand même une course qui est beaucoup plus facile en termes de dénivelé que le Tour des Flandres, donc il voudrait être capable de faire la même chose sur le Tour des Flandres, ce qui sera pas aussi facile. Mais en tout cas, s'il y a bien une équipe qui a la densité finalement pour pouvoir faire ça, et pour pouvoir, parce que là pour le coup, lui Pedersen, voilà, son rôle ça va être de passer le dernier mont avec les meilleurs, et ensuite je suis pas sûr que ce soit un coureur qui puisse lâcher tout le monde, mais par contre lui en tout cas il a la niaque pour accrocher, et voilà, ça va être son principal rôle, ça va être de je suis en haut avec les meilleurs et je peux aller disputer la gagne au sprint, et là il sera très très dangereux. Donc je pense qu'il fera pas la même course que l'année dernière où il avait attaqué de loin. Cette fois-ci il peut profiter d'une équipe très forte à son service. Donc si je vois en tout cas une équipe capable de faire flancher Mathieu Van Der Poel, c'est peut-être la Lidl Trek. Je sais pas ce que t'en penses, Loïc, toi.
Bah oui, moi je pense que t'as complètement raison. Je pense que ils ont un peu pris le rôle, je sais pas, mais de la Visma avant, où on voit un collectif ultra fort. Et moi, la question que je me posais, est-ce que Milan va anticiper et va essayer de partir avant pour épauler Pedersen, ou comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire la course? Je pense qu'ils ont énormément de cartes et ils peuvent jouer dans tous les sens. Et moi, je me dis que bon, il grimpe pas forcément très bien, mais un Milan qui part en éclaireur comme ça, moi, je vois bien le truc se passer comme ça.
Du coup, j'ai envie de vous poser la question. Dimanche, vous êtes DS de Lidl Trek. Comment est-ce que vous gérez tactiquement? Qui est-ce que vous envoyez à l'avant? À quel moment de la course? Et qui est-ce que vous allez garder autour de Pedersen, qui semble quand même le favori et le coureur à protéger le plus longtemps, qui bénéficiera pas forcément d'un bon de sortie. Comment, avec les coureurs qu'il y a, voilà, avec les sept coureurs qu'il y aura au départ dans l'équipe, comment est-ce que vous géreriez ça, vous?
Bah, en fait, t'envoies à l'avant en premier, tu vois, un Jonathan Milan, on va pas se le cacher, il est impressionnant. Pour autant, j'ai du mal à l'imaginer voir vainqueur du Tour des Flandres, c'est quand même, on a bien vu quand même que voilà, même si en fait il s'est accroché sur un ou plusieurs moments, c'est un coureur encore, on l'a vu également sur Milan-San Remo, qui a pas forcément l'endurance encore pour briller sur ses courses. Donc moi j'enverrais bien Milan à l'avant et puis un Tom Skuins, enfin voilà un coureur comme Tom Skuins qui peut durer longtemps dans la course, des Kirsch et je garde voilà pour autour de Van der Poel mes deux grands leaders parce que on parle de Mats Pedersen mais Jasper Stuyven, il est impressionnant également hein. Enfin il a fini quand même deuxième de l'E3, c'était peut-être le deuxième meilleur ou troisième meilleur derrière Van Aert et Van der Poel. Donc voilà, il faut que ces deux coureurs puissent en tout cas, il faut pouvoir les économiser, ça va être ça qui va être important. Il faut pouvoir les économiser parce qu'en fait moi j'y crois pas à un coureur qui partirait loin à 100 km de l'arrivée et qui résisterait, le parcours il est trop difficile, le niveau il est trop élevé. Donc moi ce serait une erreur d'envoyer un Stuyven, enfin même s'il est très fort, il va s'épuiser devant et l'enchaînement fait qu'au bout d'un moment ça va devenir dur pour lui. Tandis que si t'envoies ces mecs là qui sont très forts mais qui malheureusement en one to one n'ont pas vraiment de chance face à Van der Poel, tu permets à tes deux grands leaders qui eux, ont cette chance de pouvoir l'accrocher, de s'économiser. Et t'imagines que si au sommet du dernier Paterberg, ils sont plus que quatre devant, Van Aert, Van der Poel, Pedersen et Stuyven, il y a un vrai jeu tactique à faire pour Lidl Trek. Donc moi c'est ce que je ferais, j'enverrais des coureurs à l'avant pour obliger des Mathieu Van der Poel ou des Wood Van Aert à faire la course derrière, à s'épuiser et à laisser mes leaders il va falloir s'économiser le maximum pour pouvoir accrocher dans les derniers monts et avoir cette chance de gagner dans le final et de jouer tactique. Moi je ferais comme ça.
Oui, moi je pense que c'est plutôt bon, mais moi Milan, moi je l'envoie à l'avant, je sais qu'il va pas forcément gagner. Mais je pense que c'est un bon entraînement pour lui aussi, pour Paris-Roubaix, de partir comme ça, bourriner à l'avant. Je garde Skuins et Kirsch autour de mes leaders pour les protéger. Et Kirsch, je vais essayer de le faire travailler un peu avant. Et après Skuins, je vais vraiment l'utiliser à la toute fin pour essayer de faire exploser du monde dans les derniers monts. Et après, avoir entre Pedersen et Stuyven qui est le meilleur, avec pour moi une petite pièce en plus pour Pedersen.
C'est marrant parce que moi clairement je pense que je sais pas si c'est très utile de garder Pedersen et Stuyven en même temps et je trouve que ce serait hyper intéressant d'essayer d'envoyer Stuyven avec Kirsch par exemple à l'avant assez loin, assez tôt dans la course pour aussi épuiser les autres formations, ce qui serait pas forcément pour désavantager Pedersen, mais aussi pourquoi pas, on sait jamais. Alors en général c'est plus sur Paris-Roubaix où l'échappée a des chances d'aller au bout. Sur le tour des Flandres, comme tu l'as dit Titien, c'est tellement dur qu'en général ça rentre toujours de l'arrière, mais un Stuyven qui est hyper costaud, qui arrive à avoir 2-3 minutes d'avance, même assez loin de l'arrivée, pourquoi
il aura
pas
la pancarte, non
après,
je pense
oui,
pas
après,
qu'il aura un peu la pancarte
après peut-être, mais après des fois t'arrives à un petit moment d'inattention, les autres leaders ils sont loin et tu peux créer ça dans un mont pavé. Et si les équipiers de Van der Poel sont obligés de rouler assez tôt pour limiter la casse, après ça lui fait peut-être pas forcément peur à lui d'être esselé, surtout s'il a décidé d'attaquer à 60 km de l'arrivée, mais je pense que ça, en fait, ce serait un peu plus offensif selon moi. J'aurais peur que, parce que clairement, envoyer Jonathan Milan devant, pour moi, ça sert pas à grand chose, parce que si c'est pour donner un relais quand Pedersen revient avec Van der Poel et Van Aert, et pour moi, Milan, il a aucune chance de gagner, donc je sais pas. Ouais.
En fait, tu vois, il y a la jurisprudence 2023. Enfin, l'année dernière, on se souvient, c'était un groupe de monstres qui était parti. Ils étaient 10.
Oui.
Ils avaient 3 minutes d'avance. Ouais. Ils ont fini avec une minute de retard sur Van der Poel. Il leur aurait repris 4 minutes en 40
secondes. Il y avait Pedersen.
Non, mais il y avait Fred
Wright,
il y avait Paulès, il y avait Trent. Ça, c'était des monstres devant. Ouais. Et pourtant, ils se sont pris une minute de retard alors que vraiment, au pied du vieux Quarmoy. Ouais, non, mais vraiment, c'était. Et du coup, en fait, tout dépendra du statut qu'a Jasper Stuyven dans son équipe. Mais avec sa deuxième place sur le 3, à mon avis, il peut revendiquer un statut de co-leader. Et sais très bien que si tu pars à 100 km de l'arrivée, c'est dur le Tour des Flandres, faut tenir. Alors même si t'as 2 minutes, peut-être que ses chances, elles sont plus élevées en restant le plus loin possible et en s'économisant. Donc je sais pas si t'acceptes entre guillemets, t'es un peu sacrifié, mine de rien, quand tu pars devant. L'année dernière,
tu prends le risque,
effectivement.
Après,
tu prends
le... Est-ce que c'est pas le risque à prendre pour gagner et pour battre Van Der Poel?
Si, mais je pense que Steven,
il a... Je suis pas sûr, parce que...
Ouais, vas-y.
Parce que moi, je pense qu'ils sont tellement en surnombre que il va falloir jouer le jeu d'équipe. Et s'ils arrivent à partir, je sais pas, un Steven et un Pedersen avec Van Der Poel, il y a moyen de casser les relais, etc. Donc, je pense que ça peut être très très bien pour eux.
Et Steven, il a jamais fait podium en plus, donc je pense que lui, un podium, il serait. Enfin, je dis pas de bêtises, hein. Sur le Tour des Flandres, il fait quatrième en 2021.
Ouais, il a fait quatrième.
Du coup, est-ce qu'il a vraiment envie de. Enfin, il a envie de gagner, c'est sûr, mais est-ce qu'il se satisferait pas d'un podium, contrairement à Mats Pedersen, qui a déjà fait deuxième et troisième des Flandres et qui lui veut vraiment viser la victoire? Il y a ça aussi à prendre en compte.
Ouais. Non, mais ça va être intéressant. Et puis, ouais, ça va être intéressant à suivre. En tout cas, cette tactique de la Lidl Trek, clairement, je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. C'est eux qui ont les plus grandes cartes en main pour bousculer un petit peu cette hiérarchie préétablie. Et voilà, essayer de faire en sorte de battre Van Der Poel. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de la présentation de ces deux principaux collectifs que sont la Visma et la Lidl Trek. On va passer maintenant à la dernière partie de l'émission, alors un petit peu plus décousue, on va dire. On va intituler cette dernière partie de qui peut venir la surprise, un coureur d'une équipe moins attendue, en tout cas que la Lidl Trek ou la Visma. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que chacun notre tour, on donne le nom d'un coureur, on dit une ou deux phrases dessus, et puis ça permet d'échanger un petit peu, et puis qu'on puisse donner nos chances de voir ce coureur créer une belle surprise.
Je cherche.
Allez. Moi, j'en vois à peu près deux qui pourraient faire la. Enfin, je les vois pas gagnants. C'est ça qui est un peu frustrant. Ouais, dur, je les vois pas gagnants, mais.
Ouais, mais allez, on va. Non, c'est vrai que c'est dur de. Mais même.
Mais tu vois,
même
un top 5.
Pas sur le podium, quoi.
Un top 5 ou un podium, moi, je vois bien.
On a des coureurs sur le podium ou.
Un Lascano ou un Wellens, un truc comme ça. Mm-hmm. C'est quand même deux coureurs qui sont en super forme en ce moment. Franchement, je les vois pas gagnants. Lascano, il a fait un super début de saison. Tu le vois super entreprenant, mais je suis pas sûr qu'il ait forcément les cannes pour suivre sur 270 bornes. Je pense qu'il va devoir courir intelligemment et s'il arrive à le faire, il a ses chances pour pas sur le podium mais le top 5.
Un avis sur Lascano, Titien?
Ouais, moi je suis d'accord. Je le vois pas gagner parce que ça, enfin, il est jeune encore, mais ça va être un petit peu trop dur. Enfin, vraiment, il faudrait des sacrés concours de circonstances. Mais sur l'endurance et ce qu'il nous a montré, si lui, il arrive à partir de loin, à anticiper, à mon avis, le top 5 est abordable. Donc pour moi, ce serait la belle surprise de ce top 5. Je te suis, Loïc.
Ouais, je pense qu'il va anticiper, effectivement.
Il n'a pas le choix.
Il l'a fait, il n'a pas le choix, il le sait. C'est un bon coureur, mais qui n'a pas non plus une pancarte de ouf. À la fois sur Kuhn Bruxelles Kuhn, il l'a fait. Sur le 3, il aussi, il était aussi dans le coup. Par contre, son début de saison est très très bon, donc je pense qu'il a quand même franchi un cap cet hiver. Mais quand on voit ses résultats sur les monuments les dernières années, j'ai peur quand même que la fin de course soit assez difficile pour lui. Mais ouais, en tout cas, moi je suis quasiment sûr qu'on va le retrouver dans l'échappée qui part à une centaine de kilomètres de l'arrivée là. Il y a des chances de le voir.
L'avoir dans une échappée, c'est un bon moteur. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire.
Il
ne
va pas trop se poser de questions, lui. Hein. Il va y aller. Il n'a personne derrière ou il n'y a pas de tactique particulière. Faut avancer, quoi.
Ouais. Après, UAE, tu vois, aussi, je reviens sur mon
Wellens.
Team Wellens. Ouais. Mais moi, je trouve que UAE, ils arrivent avec une... Bon, c'est pas une super formation par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière avec Poggi, mais tu vois, il y a Nils Polite, il y a Mark Hirschi, il y a Team Wellens. C'est quand même, il y a de quoi faire pour faire
Bjerg
un top 5.
Aussi.
Il y a Bjerg aussi, je l'oublie.
Avec Desmond, normalement, Bjerg est bon.
Donc, je pense que c'est pas une force que je mets au même niveau que de la Lidl ou de la Visma ou même, enfin, des Alpecin, mais je pense qu'ils ont peut-être une petite carte à jouer pour le top 5.
T'y crois toi à Wellens
Bah
ou
en
à
fait,
UAE?
pas tellement. Enfin, il est très fort, Tim Wellens, mais je trouve que la barre des 250 km, elle lui a toujours été fatale. Il a, je crois, aucun résultat. Hein. Il a dû faire un top 10 sur une Amstel Gold Race, mais sinon, j'ai pas souvenir de Wellens qui fait un résultat sur
Il
une.
a deux top 5 sur le Tour de Lombardie, mais c'était 2014 et 2018.
Ouais, mais
Ça
voilà, mais
remonte, oui.
je trouve que c'est un coureur qui cale souvent sur, enfin, sur les monuments, en tout cas sur les courses très très longues, et du coup. Ah, c'est pareil, en fait, pour faire un résultat, il va devoir anticiper Tim Wellens. Il est très très fort, hein, je dis pas le contraire, mais son historique me fait dire que oui, il va être très fort, mais de là à aller faire top 5, voilà, ça me paraît. En tout cas, il sera la principale carte en l'absence de Pogacar du AE, donc ils vont jouer sur lui. J'ai du mal à y croire parce que, encore une fois, voilà, les monuments, c'est vraiment spécifique, c'est vraiment fait pour des coureurs qui sont forts là-dessus, et Wellens, ça fait quand même maintenant 10 ans qu'il est au top niveau et qui performe assez peu en tout cas sur ces courses-là, donc pourquoi pas, hein, vu le niveau qu'il a depuis le début de saison, il est très fort, ça risque quand même d'être un peu long pour lui, voilà mon avis.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Il nous a habitués sur les monuments à toujours flancher à un moment. Mais pourtant, je le trouve, enfin moi, je le trouve hyper en forme là depuis le début de la saison. C'est un des meilleurs débuts de saison que je l'ai vu faire depuis très très longtemps, si ce n'est depuis le début de sa carrière. Donc à voir. Hein, il y a peut-être aussi quelque chose qui va se passer. Je pense pareil que c'est un coureur qui sera dans. Il sera leader de sa formation, mais ce sera pas une grosse formation sur cette course, donc il va avoir les libertés pour anticiper. C'est un attaquant, donc je pense qu'il va vraiment oser. Et puis ça reste un Belge qui fait le Tour des Flandres, donc rien que pour ça, il s'arrachera jusqu'au bout.
Est-ce que vous savez, les gars, qu'on n'a pas mentionné le nom de la Quick Step une seule fois dans ce podcast pour l'instant?
J'avais pas
Pour un
prévu de le
monument, ça fait un
faire.
peu mal.
Ouais, tu voulais parler
C'est
de qui?
quoi?
Non, j'avais pas prévu de le
Donc,
faire, là, c'est vrai.
ouais,
C'est vrai.
c'est quand même, ça fait un peu mal quand même.
Non,
Ouais.
mais on va pas se le cacher, ils vont rien faire en fait. Enfin, Asgreen, il joue l'équipier, enfin, il est
Asgreen,
pas.
t'y crois pas?
Bah franchement, t'as sur les deux dernières classiques, là, il est aux fraises totalement. Enfin, je sais. Enfin, l'année dernière, il était fort sur le Tour des Flandres, mais. Je sais pas ce qui, enfin bon, et puis Patrick Lefebvre qui vient de refaire une sortie en mode ça va pas du tout l'équipe. Certes, on s'est tourné vers les grands tours, mais les Flandriens, pourquoi je les paye? Enfin, il y a un truc qui va pas. Non, enfin,
Non, mais ça,
et
retourne à l'EHPAD, papy.
non,
Pardon.
mais au-delà de ça, enfin voilà, l'ambiance elle est pas bonne instaurée par Patrick Lefebvre. Au-delà de ça, la réussite elle est pas là. Julien Alaphilippe, alors certes sur son punch, son explosivité, il passe bien les monts, mais moi je suis persuadé que voilà, c'est pas des courses qui lui conviennent vraiment. Non, bon, enfin la deux que, enfin la Soudal Quick Step, pardon, je parierais sur aucun de leurs coureurs pour être dans le top 10 final. À eux de nous surprendre. Hein.
Je suis bien d'accord avec toi.
Ça semble compliqué vu le début de saison. Après, on n'est pas à l'abri. L'année dernière, c'est pareil. Hein. Asgreen, il fait des premières classiques catastrophiques et puis il arrive quand même à choper le top 10 sur le Tour des Flandres. Je pense effectivement qu'on sera trop juste pour faire un plus grand résultat. Hein. Il pèse plus du tout sur la course. Pourtant, quand on voit les noms comme ça, on se dit ça a de la gueule. Mais ouais, il y a un truc effectivement qui s'est cassé et puis faut pour revenir sur les déclarations de Lefebvre, c'est un peu de sa faute en fait si l'équipe en classique, elle est beaucoup
C'est
moins
sûr.
performante, c'est parce que c'est lui qui a
C'était un peu
décidé de
son
faire
choix
en
aussi.
sorte que ça soit une équipe de grand tour. Donc mais bon, enfin, on est habitué, mais c'est marrant parce qu'on fait même plus attention à ses déclarations maintenant, tellement c'est ridicule quoi. Donc ouais, pas la Soudal Quick Step, mais c'est vrai que moi j'avais pas mis de coureur de la Soudal Quick Step dans ma petite liste non plus. Qu'est-ce que vous pensez les gars d'un éventuel top 5 voire podium de Bétiol? Petite question comme ça, on l'a vu costaud, il a fait un très bon Milan-San Remo. Voilà, je voulais
Moi,
avoir.
il était dans ma shortlist, après, parce qu'il est en forme en début de saison et qu'il a déjà gagné. Après, face au monstre qu'il y a, je sais pas trop comment est-ce qu'il peut faire, quoi. Et je suis pas sûr que l'équipe qu'il est autour de lui lui permette de faire grand-chose. Après, je sais pas si toi, Titien, t'as une autre idée?
Bah déjà, il a abandonné à l'E3 parce qu'il est tombé, donc ce qui est jamais très bon signe. En plus, bah ça y est, il a fait son apparition annuelle, voilà, en faisant premier de Milan Turin et cinquième de Milan San Remo, donc je pense qu'il va repartir pour quelques mois d'hibernation comme il sait faire. Je suis méchant, mais non, je parierais pas non plus sur Alberto Bettiol. Son Tour des Flandres 2019, voilà, dans notre écrase les pédales sur les étoiles filantes, je l'avais mis, je le pense toujours. Donc voilà, il fait quelques apparitions par-ci par-là, mais je pense que voilà, en plus avec sa chute, ça va être compliqué pour lui.
Ouais, c'est vrai que c'est dommage.
Ça m'a été tanché.
Le fait d'être tombé, ça aide pas, ça aide pas.
Moi j'ai un nom si tu veux.
Ouais. Vas-y.
Moi, j'y crois dur comme fer. Et bah, écoute, on parle en fait, on a beaucoup construit l'émission autour des collectifs qui vont attaquer Mathieu Van Der Poel. Mais moi, pour moi, la meilleure réponse à ça, ça va être l'attaque du côté de l'équipe Alpecin. Et moi, je vois très bien gros comme une maison Jasper Philipsen aller sortir un résultat que peut forcément attendre sur une course comme le Tour des Flandres. Mais il fait que cesser de progresser, en fait, Jasper Philipsen depuis des années. Moi, ça m'étonnerait pas. Alors, je m'avance un peu. J'ai déjà dit dans d'autres émissions qu'on se dirige petit à petit vers un profil à la Tom Bonnen. Alors, voilà, Tom Bonnen, c'est un immense champion. Donc, en tout cas, c'est plutôt vers un profil que vers le même palmarès. Mais écoutez, en fait, je vois pas pourquoi, en fait, on mettrait un mec comme Philipsen à rester dans le peloton, sachant que derrière, il sera pas d'une grande utilité. Enfin, moi, tu fais attaquer des mecs. Enfin, si des coureur d'équipe adverse attaque à 100 km de l'arrivée, là, comme ça risque sûrement d'arriver, bah moi j'envoie un Jasper Philipsen devant qui va pas trop rouler. Ça va un peu casser les coups devant, ça va pas faire progresser les autres. Et puis pour moi, il est très très costaud, Jasper Philipsen. Il est capable, en faisant une course offensive, voilà, en participant pas trop devant, enfin voilà, en jouant le jeu d'équipe de Van Der Poel, de bien passer, d'être là dans le final et pourquoi même pas d'aller chercher un top 5 au final. Moi, j'y crois assez et je crois assez à cette stratégie de l'équipe Alpecin de dire, bah écoutez, nous aussi, on va envoyer un gros coureur devant. Vas-y, emmène le meilleur sprinter du monde jusqu'à la ligne. On va voir comment ils vont faire les autres équipes. Donc tout ça, faudra qu'il ait les jambes, mais je crois que c'est possible, qu'on n'a pas encore découvert toutes ses qualités. Qui aurait dit qu'il aurait passé le podio avec tous les meilleurs sprinteurs du monde. Donc, écoute, moi, c'est un scénario que j'utiliserais de la part de l'équipe Alpecin s'il a les jambes, et je vois bien Jasper Philipsen aller performer. Et bon, un top 10, ça me semble largement dans ses cordes, et pourquoi pas même un top 5, plus ce sera difficile. Mais Alexander Kristoff, il a gagné le rond en 2015, faut pas l'oublier. Donc Jasper Philipsen, vu ce qu'il montre depuis deux saisons, moi j'y crois du côté de l'équipe Alpecin d'être un peu le joker qu'on n'attend pas forcément.
Ouais, en tout cas, je pense qu'ils auraient raison de l'utiliser comme ça. Effectivement, tu l'as dit, il servirait peut-être pas à grand chose en restant aux côtés de Van Der Poel, et ça permettrait aussi à Van Der Poel derrière d'être un peu tranquille. Et donc à voir, surtout depuis Milan San Remo et cette capacité à passer le podio. Alors après le podio, c'est pas le Paterberg non plus. Il y a cet enchaînement de monts, hein, là les classiques flamandes qu'il a faites, bah c'était pas les plus difficiles. Donc, je dirais que c'est un peu encore dans l'inconnu sur le Newsblatt. Il n'était pas forcément le résultat était pas forcément à la hauteur. Je demande à voir. Je serais pas aussi certain d'un top 10 sur une course qui est quand même hyper spécifique. Il l'a jamais terminé sur les deux premières participations. Après, c'était avant qu'il passe vraiment un step sur ses courses et qu'il prenne aussi de la caisse. Mais ça va être très intéressant en tout cas de l'observer.
Oui, bah d'accord avec vous, monsieur. Je sais pas si je le vois vraiment faire un top 10, parce que à voir comment il va passer les monts, et c'est très long pour lui. Après, c'est une carte que Alpecin doit jouer, je pense que. Mais après, à voir aussi si Mathieu va être content avec le fait qu'on commence à jouer avec un autre coureur dans son équipe. Je sais pas. Oui, ça, c'est possible.
Je vous balance un dernier nom avant qu'on se quitte.
Valentin Madouas, c'est ça?
Non, mais son coéquipier.
Ah.
Il a, c'est Kung, il a fait cinquième il y a deux ans, sixième l'année dernière. C'est des courses qu'il aime bien. Et, sur les deux dernières années, il a toujours été là sans vraiment lutter pour la victoire. Il fait un début de saison qui est. Comment le définir?
Moi, je suis pas sûr qu'il fasse un très bon début de saison.
Moyen pour son niveau, mais pas à la ramasse totale non plus, mais pas forcément dans le coup.
Il a eu quelques soucis.
Moi, je pense que ça va être un petit peu plus.
Il a eu des soucis. Il a perdu un enfant, je crois. Enfin, sa femme était enceinte et ils ont perdu l'enfant. Donc, je pense que personnellement, ça a été très dur pour lui ces derniers jours. Ça, c'est sûr que ça a un impact sur la performance, ce genre de choses. Et moi, je, en tout cas, je trouve qu'il fait un début de saison moyen, mais en tout cas, moi, j'aurais rien à lui reprocher là-dessus. Je pense qu'il faut laisser le temps à Kung de, enfin, il faut laisser le temps de se reconstruire personnellement. Et j'attendrai rien de lui, je pense, sur ce début de saison. Et s'il fait un résultat, je serais super content pour lui aussi. Historiquement, tu vois qu'il a, il peut faire ce genre de choses. Et je pense que ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de bah, que ça aille bien à peu près dans sa vie personnelle.
Ouais, tout à fait. En fait, dans tous les cas, Stephen Kung, j'ai l'impression qu'il a une sorte de petit plafond de verre. Et le problème aujourd'hui, en fait, c'est que quand t'as pas de pointe de vitesse et pas de punch, c'est compliqué d'exister sur la scène internationale au top niveau. C'est peut-être le seul, d'ailleurs, qui est aussi fort, mais avec aussi peu de qualité. Enfin, voilà, Stephen Kung, il a pas le choix. Déjà, pour gagner, ça me paraît quasi impossible. Faut qu'il a déjà qu'il accroche les meilleurs, ce qui me paraît très compliqué. Ensuite, faut qu'il parte tout seul. Donc voilà, et le niveau, il est quand même assez élevé. Donc voilà, il a avec ses problèmes, je trouve qu'il est un peu moins en forme que l'année dernière. Donc à lui de nous surprendre, je serais évidemment hyper content pour lui. Je trouve que c'est un coureur qui se bat avec ses moyens, qui a pas eu de chance, qui est, enfin voilà, tous ces titres de champion du monde du contre-la-montre où il passe à côté ou de, enfin voilà. En tout cas, ce serait super pour lui de pouvoir accrocher un podium déjà, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais il sera là, j'ai aucun doute que s'il finit dans le top 10, ce sera pas du tout une surprise pour moi parce que depuis 3 ans, c'est le fer de lance de la Groupama et avec un petit peu les difficultés de Valentin Madouas cette année, j'espère qu'il nous surprendra d'ailleurs Valentin Madouas parce que franchement c'est quand même pas fameux depuis le début de l'année. Bah, j'espère qu'en tout cas Stephen Kung sera là pour représenter la Groupama FDJ et montrer que même si leurs pépites sont menacées, en tout cas ils peuvent compter sur les cadres de l'équipe. Donc ouais, je souhaite tout le bien à Stephen Kung pour cette course.
Ouais, puis on sait aussi que vu ses qualités, Paris-Roubaix lui correspond sûrement mieux que le Tour des Flandres. Donc oui. ce sera peut-être aussi plus intéressant de le voir sur Paris-Roubaix et s'il est aussi moins attendu vu son début de saison en fonction de ce qui se passera sur le Tour des Flandres et pourquoi pas le voir un peu plus à l'offensive, partir de plus loin sur Paris-Roubaix et que ça sourisse. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de cette preview du Tour des Flandres 2024. On a essayé de poser un petit peu les bases de la course, exposer nos tactiques et nos visions. Donc c'était un réel plaisir de faire ça avec vous, messieurs. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse rajouter un petit mot si vous le souhaitez avant de conclure.
Bah c'est non, hyper hyper impatient d'être à dimanche, ça va être incroyable, c'est vraiment la course de l'année que j'ai pas envie de louper. Il y en a quelques-unes des courses d'un jour comme ça, mais le Tour des Flandres c'est un moment magique et c'est vraiment, ça récompense les coureurs les plus forts de l'année, c'est toujours hyper spectaculaire, hyper stressant. Donc voilà, ça va être un super moment de cyclisme. Et puis on se fait un petit prono quand même tous avant de finir l'émission.
Allez, lâche ton podium.
Et bah écoutez, je vais en surprendre beaucoup, mais je ne vois pas Wout van Aert ne pas gagner après. Enfin, ça me paraît inconcevable après tous les sacrifices faits. Je me dis que malgré la forme de Mathieu Van Der Poel, il doit avoir un plan et une charge d'entraînement. Voilà. Donc, prendre un petit risque et puis miser sur le fait que Wout van Aert a parfaitement. Même si dans le fond, j'ai quand même du mal à y croire et inversement, j'ai du mal à croire que tous ces sacrifices, il n'y ait pas une assurance derrière d'être à un niveau incroyable. Donc, écoute, je vais miser sur le fait que voilà, Van Der Poel va sortir fatigué d'une course et que Wout van Aert va passer avec les meilleurs dans le final et va s'imposer aux Denards et remporter enfin ce Tour des Flandres. Même si je préfère Van Der Poel, c'est tout le bien que je vous souhaite parce que c'est un coureur énorme, Van Aert. Donc, je sais pas, j'ai envie de dire Wout van Aert.
Puis même quand on est pas fan de Van Aert, au bout d'un moment, il nous fait presque de la peine à pas gagner. Et je pense que tout le monde sera content quand il arrivera à en claquer une belle de course. Enfin, surtout le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, qui sont les deux courses qui lui correspondent le mieux en théorie. Loïc, ton pronostic.
Alors moi, je vais pas suivre l'avis du Titien. moi, je suis pas les oracles qui jurent que par les croquettes. non, moi, je vais mettre Van Der Poel premier. Je vois un énorme duel avec Van Aert et je le vois deuxième. Et avec... on va pas faire dans la surprise, mais un Pedersen troisième.
Moi, du coup, j'avais pas préparé ça, j'avais pas réfléchi. Non, je pense que Van Der Poel va s'imposer, mais cette fois-ci en solitaire. Il a tellement été impressionnant et je vois personne arriver à le suivre au fil des monts. Et derrière, un groupe de favoris qui se joue le sprint avec, Pedersen devant Van Aert. Pas très original, mais en général, le Tour des Flandres, c'est quand même les plus costauds qui sont devant à la fin. Voilà. Et ben, on verra si on s'est beaucoup planté dans quelques jours. En tout cas, messieurs, une fois de plus, merci. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque là. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, que vous n'êtes pas encore abonné, et ben, vous pouvez le faire. On approche tout doucement de la barre des 2000 abonnés. Donc, merci par avance également de liker la vidéo. Allez faire un tour sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour voir les super articles de Matt et Simon. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À bientôt et surtout, pensez à vous alimenter pour le round. C'est long, on l'a dit, on l'a répété, c'est la course la plus difficile de la saison. Donc, dès le début de course, on enchaîne les compotes, les pâtes de fruits, les gels et même les gâteaux. Vous pouvez y aller, surtout devant votre télé. On sait, hein, on vous voit, on sait que vous allez profiter des gros repas de famille devant le round 2. Et ben, vous avez bien raison. Pensez à vous alimenter, car la fringale guette. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.
Ciao les copains.
Bisous à tous.